Bonjour chers fidèles d'IDFM, c'est Didier pour un nouveau rendez-vous compte, un rendez-vous compte spécial composé comme chaque mois depuis la saison dernière avec nos chroniqueurs, en deux mots désormais attitrés, ces chroniqueurs qui prennent le temps de temps en temps de se retrouver pour parler de l'air du temps. Eh bien, ça tombe bien puisque le temps est justement le thème de ce rendez-vous compte d'aujourd'hui. Pour commencer ce rendez-vous compte, comme chaque mois, nous retrouvons notre ami Michel Saufroy Paret, qui nous propose, selon son habitude, un regard à la fois lucide, tendre et ironique, cette fois sur le thème du temps, évidemment.
Le temps. Le fil du temps. Le temps. Une énigme que nul n'a jamais pu résoudre. Une inconnue. Un mystère que nul n'a jamais pu percer. Et pourtant, il nous poursuit, il nous colle à la peau. Le temps coule, il s'écoule, il file entre mes doigts comme l'eau pure et transparente du ruisseau, de la rivière, du fleuve, du torrent emportant tout sur son passage. Il continuera de s'enfuir doucement, inexorablement, sans bruit. Je vois, je sens, j'entends le passage du temps. Je voudrais casser le sablier, oublier le tic-tac de l'horloge, celui de la comptoise, tordre le cou au coucou, arrêter les aiguilles au cadran de la montre, au clocher de l'église, dérégler le mécanisme de l'horloge astronomique de la cathédrale. Symbole de notre séjour, de mon séjour éphémère sur cette terre. Il m'obsède. En vain, le temps ne suspendra jamais son vol. Les jours succèdent aux jours. Les années succèdent aux années. Sans bruit, à pas de velours, perles de nacre, grains d'un chapelet infini. Hier encore, j'avais 20 ans, j'avais 30 ans, me voilà bien vieille. J'ai connu le temps béni de l'enfance, le temps des amours, le temps des cerises, des temps de tourments, des temps de crise, des temps morts. Ils m'ont laissé des souvenirs heureux ou malheureux, emportés par le vent vers d'autres sphères. Je chemine sur le sentier de ma vie, à mon rythme, pas à pas, les yeux rivés sur l'horizon et le sommet de la colline que je dois atteindre. La route est peut-être encore longue. Je ne me retourne pas. À quoi bon partir à la recherche du temps perdu? Il est perdu à tout jamais. Le temps érode les montagnes, il élargit les déserts, creuse des gorges et des canyons insondables, comme il griffe et érafle mon visage. Il lui a donné sa patine, il alourdit ma silhouette, il ralentit mon pas. Je continue ma progression vers l'infini, vers l'inconnu. J'avance encore, j'avance toujours, au rythme des battements de mon cœur. J'arriverai un jour au terme du voyage. Quand? Nul ne le sait. Quand j'aurai conjugué ma vie à tous les temps, par beau temps ou par gros temps, je me retournerai. J'aurai le sentiment du devoir accompli et de tout là-haut je dirai « Merci ». La faucheuse pourra sonner son glas.
Merci Michel pour cette chronique si subtile sur le temps qui file. Une chronique aux nombreuses références littéraires que je vous propose, chers fidèles de ce rendez-vous compte, de retrouver quand l'émission sera en podcast, c'est-à-dire dès demain. On te retrouve Michel le mois prochain pour une autre de tes élucubrations, entre guillemets, comme tu les nommes, avec bien trop de modestie. Et merci également à Michel, sans eux, pour l'enregistrement depuis votre belle côte méditerranéenne. On va marquer une première pause musicale avec cette chanson de 1950 dont le texte est du génial Raymond Queneau et qui est une mise en garde ironique adressée à une jeune fille qui s'imagine, fillette, fillette, que beauté et amour vont durer toujours. On écoute la version de notre ami chanteur et poète Thierry Leclerc.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours. La saison des A, la saison des A, saison des amours, ce que tu te cours, fillette, fillette, ce que tu te cours. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, ton mignon biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, que ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te cours, fillette. Fillette, ce que tu te goûtes. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu ne vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton fripé.
Nous sommes toujours bien sûr EDFM dans ce rendez-vous compte consacré au temps. Après les modifications que provoque en nous le fil du temps, comme nous l'a expliqué Michel Sauffroy Paret, c'est au tour d'un autre de nos chroniqueurs, Gérard Poêtre, de nous présenter ce que lui inspire le temps. À toi, Gérard.
On a coutume de dire que le temps nous échappe. On ne peut pas le discipliner. Même si nous ne le voulons pas, il passe. À chaque jour succède une nuit. Dès qu'une seconde est passée, elle appartient au temps des souvenirs. Mais peut-être est-il possible d'en saisir des bribes. Peut-être pouvons-nous saisir des moments forts ou nous inscrire dans le temps long des souvenirs d'enfance ou dans le temps court de moments éphémères mais importants. Si nous y parvenons, le temps abstrait devient notre temps, le temps d'une existence unique et non plus générique, notre propre calendrier existentiel. Mais les autres espèces qui nous côtoient sur Terre ont aussi un rapport au temps qui leur est propre, même s'il n'est pas conscientisé. Je vous propose quelques exemples de ces rapports au temps, mélange de vécu et d'imaginaire. L'attente est associée à la perte de temps, parfois à raison lorsqu'elle s'écoule sur un quai de gare, parfois à tort, lorsqu'elle précède une naissance. Nous avons beaucoup à apprendre de la nature pour que l'attente ne soit pas systématiquement impatience, angoisse, énervement, comme en témoigne le tour du monde de la mouette. La mouette avait pris ses quartiers d'hiver. Toutefois, lorsque la lumière du jour recommençait à honorer la mer de sa clarté, lorsque les rochers du cap sortaient de l'ombre hivernale, elle se postait régulièrement au bout du quai dévoilant l'horizon. Stoïque, elle attendait, seule. Ses congénères étaient dans l'incompréhension de cette posture. Elle tentait quelques approches, mais soit elle émettait un battement d'ailes dissuasif, soit elle se tournait avec mépris vers l'océan. Lorsqu'un voilier s'agitait sur les flots, à quelques encablures du port, elle lissait ses plumes, se faisait une beauté, puis entamait un élégant vol circulaire au-dessus des quais. S'il continuait sa route, indifférent, elle se posait à nouveau au même endroit, à la fois inquiète et fataliste. Cette année, le quai était désert. Peut-être qu'aucun ne reviendrait. Elle ne savait pas si ce qu'elle attendait était éphémère ou éternel. Un mélange d'angoisse et d'impatience la tenait en éveil. Un quartier de lune plus tard, l'agitation semblait peu à peu gagner la côte. Elle se préparait comme une star des mers en lissant ses plumes une fois de plus. Soudain, elle entendit des cornes de brume. La mer elle-même semblait s'éveiller, s'égayer. Puis elle le vit au loin, le premier. Elle l'accompagna de son plus beau vol, laissant imaginer qu'elle aussi avait fait le tour du monde. Elle n'osa pas se poser sur le mât, mais peut-être le ferait-elle un peu plus tard. à l'abri des regards, la nuit tombante. Elle avait encore réussi à saluer le vainqueur du Vendée Globe. Combien de temps pourrait-elle entretenir le mystère de sa solitude volontaire ? La nuit nous intéresse aussi. Elle recèle beaucoup de contradictions. Tantôt, c'est le temps du repos, du rêve, d'une solitude bienvenue. Tantôt, c'est le cauchemar, la peur de l'obscurité, le temps de tous les dangers. Mais parfois, le travail de l'imagination permet de se distancier et d'ouvrir une autre fenêtre sur le monde. Je vais vous parler d'une nuit sans vie dans l'Italie confinée. Les terrasses des bars étaient désertes. Les journées de Paolo n'étaient déjà pas très occupées. Et là, un vide supplémentaire s'était creusé. Ce temps sacré de chaque soirée réservé à la passeggiata n'existait plus. Personne pour être vu, personne pour voir, pas de conversation. À force de lassitude, il somnolait, puis s'endormait profondément, bien que la nuit ne soit pas encore tombée. Cette nouvelle routine contrainte lui donna l'idée d'inverser les rythmes de son existence. Il sortit donc la nuit, connaissant les lieux où il risquait peu d'être contrôlé. Il s'assit à une terrasse rescapée, où languissaient quelques chaises, dans l'attente d'une compagnie humaine. Alors, les portraits de ceux qu'il observait entre 17 et 18 heures, en dégustant un dernier limoncello, lui revinrent à l'esprit. Il laissa la pellicule se dérouler. Qui allait-il saluer cette nuit ? Dispersé parmi des visages anonymes, il revoit passer avec délectation Sophia Loren, Vittorio Gassman, Monica Bellucci, Marcello Mastroianni et bien d'autres. Peut-être ne les aurait-il pas croisés sans ce confinement. Le temps se mesure aussi par des catégories d'âge. Le passage de l'une à l'autre requiert toujours une adaptation, la recherche d'un nouvel équilibre, d'un nouveau sens à l'existence. Il semble que l'entrée dans l'adolescence est un moment particulièrement déstabilisateur, comme s'il s'agissait d'enjamber un précipice ou de se jeter à l'eau sans savoir si l'on résistera aux vagues. L'entrée dans un nouveau monde, par exemple, peut-être, le monde des filles. Paul n'avait connu et fréquenté que des garçons dans sa scolarité primaire, et même un peu au-delà. Après le déménagement de sa famille, il se retrouva dans une classe où il voisinait avec des filles. Ce fut à la fois l'extase et le doute. L'ouverture d'un nouvel horizon et en même temps une plongée dans l'inconnu. Comment peut-on les approcher quand on a, jusqu'à présent, échangé qu'avec des humains du même sexe, à l'exception de la famille ? Paul eut alors l'idée de pratiquer la même activité que la première fille, Anne, pour laquelle son degré d'extase était le plus élevé. Il s'inscrivit au cours de tennis dans le même club qu'Anne, mais se rendit compte que ni son coup droit, ni son revers n'attiraient l'œil d'Anne. Alors il se dit qu'après tout, Sophie était peut-être plus accessible, à condition de se mettre à la course à pied. Il se lançait derrière Sophie à chaque séance, en espérant que sa foulée l'impressionnerait et qu'il pourrait envisager des entraînements communs. Mais il était resté invisible pour Sophie, en dépit de quelques accélérations soudaines qui frisaient le ridicule. Il fit une troisième tentative avec Muriel, qui l'émouvait par ses talents musicaux. Il s'acheta une guitare, se concentra sur un apprentissage rapide, puis se joignit à elle lors d'un modeste concert de musique du quartier. Les autres participants, impassibles pendant les premiers accords, ne purent s'empêcher ensuite de se moquer de ses fausses notes. Alors il prit sa guitare, sortit de la salle, alla s'enfermer dans sa chambre. Il n'était vraiment pas prêt à exprimer son extase pour l'autre sexe, mais ce n'était probablement qu'une question de temps.
Shivers offshore through the tides of oceans. We are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside you.
Voilà, merci beaucoup Gérard pour ces petits clins d'œil temporels aussi sensibles dont nous avons tous peut-être pu faire nous-mêmes l'expérience. Merci Gérard, on te retrouve le mois prochain. Et si tu nous parlais de ton atelier d'écriture sur Saint-Leu ?
Eh bien, je pense que la 14e saison va bientôt débuter, courant septembre, pour voilà, on va dire 18 séances environ. Répartis sur l'année. A priori, les participants de l'an dernier ou d'il y a quelques années souhaitent revenir. Bon, peut-être qu'y aura-t-il aussi de la nouveauté. Donc, nous nous verrons ça dans quelques jours. Voilà.
Alors, comment on fait pour éventuellement rejoindre cet atelier d'écriture qui a lieu à Saint-Leu?
Eh bien, il faut me contacter directement, soit par mail, soit par téléphone.
Tu nous donnes ton mail, par exemple?
Oui, donc mon mail, poetre, P-O-U-E-2-T-R-E, point G, comme Gérard, @wanadoo.fr.
Alors, pour avoir assisté à la dernière séance de l'atelier l'année dernière, c'est à la fois une expérience d'écriture individuelle, mais aussi une belle rencontre collective à chaque fois.
Oui, c'est ça. C'est un moment de partage. Ça n'est pas forcément gagné d'avance, mais quand le groupe, petit à petit, se soude, se commente les publications des uns et des autres, mais avec un esprit toujours positif, tant que ça fonctionne comme ça, c'est agréable et ça fait une heure et demie d'exercice dans la joie, on va dire, dans le plaisir d'écrire, puisque on ne recherche pas la performance, mais développer toujours le plaisir d'écrire, creuser son sillon personnel d'écriture. Ce que je peux juste citer par ailleurs, c'est que mon ouvrage va sortir le 1er septembre, qui reprend justement une synthèse de 300 pages, quoi, une synthèse de l'atelier d'écriture, en partant de mon inspiration première, qui est la littérature étrangère. Et donc, je démarre les ateliers avec des citations de, pour l'instant, on doit être à 70 romans de littérature étrangère, qui, jusqu'à présent, tant que j'ai pu le vérifier, inspirent effectivement les participants à l'atelier.
Quel est le titre de cet ouvrage ?
Voyage littéraire, invitation à l'écriture.
Pas mal. C'est pas invitation au voyage, mais invitation à l'écriture. C'est un peu pareil.
Voilà.
Voilà, merci Gérard. On te retrouve donc le mois prochain dans nos nouveaux numéros de Rendez-vous Compte spécial chroniqueur. Merci.
Merci beaucoup.
Alors, si les temps nous changent, les temps changent aussi. Dylan le chantait déjà en 1964. M.C. Solar aussi en 1997 dans ce titre dont les paroles sont, comme d'habitude, d'une grande qualité. M.C. Solar, les temps changent.
Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école. Manger à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais fanada yato dans la rue, c'était l'aiguiseur de couteau. Le must à l'époque était le pas de bref. Follon, Gilles Villeneuve et Michel Polnareff. Créateur d'avant-garde, avant Gautier, je choquais. Mes blue jeans avaient quatre ourlets. Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux actions bucoliques. Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde, maintenant c'est les parents qui flippent, les temps changent.
Les temps changent.
Les temps, tu prends ce...
Nous sommes toujours bien sûr IDFM pour ce nouveau rendez-vous compte spécial chronique, consacré ce mois-ci au temps. On retrouve celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire des inepties. Vous l'avez reconnue, c'est Hélène Souault, thérapeute et psychanalyste, qui nous présente son œil du psy. Le temps en psychologie, Hélène, j'espère que tu as eu le temps d'y réfléchir depuis le temps, non ?
Je suis dépassé par le temps, je me nourris de distance pour sentir mon existence. Vous vous souvenez de cette chanson née en plein confinement ? Elle nous projette dans un magnifique vertige existentiel et temporel. Car oui, le temps fait peur. Il est souvent appréhendé sous l'angle de la fuite, de la perte, de la destruction, de la mort qui nous attend inéluctablement au bout d'un certain temps.
Voilà, ça c'est fait. Le temps mène à la mort. Il signe la dimension tragique de l'existence humaine. Très bien. Bon, tu as d'autres choses réjouissantes à nous apporter, Hélène, sur le temps ?
Oui, le temps ne passe jamais à la bonne vitesse. Quand on est contraint à une activité ennuyeuse, comme suivre un cours qui ne nous intéresse pas, ou pire, à pas d'activité du tout, comme attendre son bus, le temps semble infiniment long. On notera au passage que depuis qu'on a tous un téléphone portable dans la poche, ces temps vides d'attente chez le médecin, à la caisse, dans les transports, sont quasiment systématiquement comblés par des interactions avec le petit parallélépipède numérique. Le téléphone a quasiment aboli le temps long et vide. Parfois, en panne de batterie ou séparé de son engin, on redécouvre le vide, l'ennui, la possibilité de rêver, de divaguer. Mais ce qu'on reproche le plus souvent au temps, c'est de passer trop vite, surtout en vacances. C'est toujours passer trop vite, les vacances. Ce qui se passe encore plus vite que le temps de qualité, c'est le temps routinier, le temps vide. Parfois, on se retourne et paf, 10 ans, 20 ans se sont évanouis en un clin d'œil. On a des tas de petites stratégies pour lutter contre l'oubli. Les agendas que l'on peut reconsulter. Ah ouais, j'ai fait plein de trucs quand même. Les photos, les notes, les journaux, les collections. On prouve qu'on a vécu, que ça valait le coup, qu'il en reste quelque chose. Les artistes, les écrivains ne sont pas tous d'accord entre eux sur l'importance de la postérité. Certains s'en gargarisent, comme Victor Hugo ou Beethoven, conscients de la trace durable qu'ils allaient laisser. D'autres s'en moquent, privilégiant leur plaisir personnel partagé avec des amis ou un public, la beauté du geste. Rimbaud en faisait partie. Pour les Landes artistes, qui travaille sur le sable ou la glace, la conscience de l'éphémérité fait partie du geste artistique.
Alors éphémère, oubli, poussière, on reste dans le joyeux, Hélène. Je commence à connaître la structure de tes chroniques. Bon, tu nous gardes en principe le meilleur pour la fin.
Eh oui, tu m'as percé à jour. En effet, dans le cadre de la psychothérapie, le temps joue un rôle très positif. La vie est finalement une suite de traumas à surmonter. L'action du temps est déterminante pour adoucir la douleur, permettre au deuil de se faire, au corps et à l'âme de cicatriser. La Fontaine l'a écrit très joliment dans son poème « La jeune veuve ». La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fut la même personne. La capacité du temps à apaiser la douleur est d'ailleurs un outil thérapeutique pour déterminer l'ampleur du trauma et adapter l'accompagnement. Une période de stress, de cauchemar, après un choc, un accident, une perte, est une réaction normale. Le temps va faire son œuvre. Un accompagnement par un psychothérapeute permet de fluidifier la guérison, de donner du sens à ce qu'on a vécu, de transformer une épreuve en force. Mais l'essentiel du travail se fait par le temps et par le patient lui-même, bien plus que par le thérapeute. D'autre part, quand les traumas sont identifiés, nommés, accompagnés, amortis et que le patient souhaite repartir dans l'action, se réapproprier son temps est souvent un enjeu important. Une thérapie n'est pas seulement faite d'idées et de prises de conscience, c'est aussi une réappropriation concrète de ses jours et de ses nuits. Le grand secret des transformations personnelles, c'est souvent l'organisation de son temps. Comment je mange, comment je dors, à quel moment, comment je bouge.
Avec le temps, on va tous en va, chantait Léo Ferré. Le temps est donc finalement notre allié. Enfin, une bonne nouvelle, Hélène, tu en as d'autres ?
Oui, j'ai une excellente nouvelle pour les jeunes retraités qui nous écoutent. L'économiste du travail Andrew Oswald a écrit en 2008 que la courbe du bonheur a une forme de U. On est très heureux enfant. On démarre avec une courbe très très haute. La courbe baisse jusqu'à 40, 50, 60 ans où on a plein de boulot, des responsabilités par-dessus la tête. Et à la retraite, la courbe caracole à nouveau dans les hauteurs et on kiffe la life. Ça a été une vraie surprise pour moi de lire ça. Oui, le meilleur est devant nous. Vive le temps qui passe, vive les rides et les lunettes. Mais quel que soit votre âge, prenez le temps de vivre, de ressentir, de vous ennuyer même. La capacité à être à l'écoute de ce qui se passe en soi allonge le temps de vie. Et c'est à la portée de tous, à condition d'accepter de ralentir de temps en temps.
Merci Hélène. Hélène Souhaud pour ce nouvel Œil du Psy sur le thème du temps. À bientôt Hélène. Et surtout, continue à ouvrir l'œil. Dans ce rendez-vous compte spécial chroniqueur, Marine Gauvin, notre illustratrice freelance et écologique, nous propose sa vision très personnelle du temps, avec un véritable souffle littéraire où le lyrisme et la colère se côtoient et s'enrichissent.
Le temps, ce sacré temps, ce fichu temps, ce temps précieux, l'allié du poète, du flâneur, de l'écrivain, né dans le vent, à cheminer sur les sentiers pour cueillir des histoires au milieu des champignons et des glands de chêne, à attendre que la rime infuse dans la brise qui fait frémir le saule, à fermer les yeux dans un champ de fleurs pour laisser ses pensées vagabonder librement. Le temps, dilaté, amplifié, long, court, étendu, jamais pareil, fuyant, présent, animal sauvage difficile à dompter malgré les aiguilles et les cadrans dans lesquels on souhaite le faire tenir. Le temps à multiples facettes, qui est propre à chacun, propre à nous, et partagé par la majorité. Ce temps en contradiction permanente, jamais à la bonne place, si rarement dans les temps. Étant artiste au RSA, je sais ce que le temps représente et la contradiction engendrée par notre société pour qui l'argent c'est du temps et le temps c'est de l'argent. J'ai le temps de l'artiste, fluctuant. J'ai le temps de la réalisation, fluctuant. et j'ai le temps du RSA. Vite, vite, vite! Il faut absolument que je me fasse de l'argent, que je sois indépendante financièrement le plus vite possible pour ne pas passer pour une sale égoïste qui fait plonger la France en se curant le nez devant sa feuille en attendant les sommes sonnantes et trébuchantes du RSA dans ma tirelire. Vite, vite, trouver le plus de contrats possible. Vite, 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 devenir artiste à succès le plus vite possible. Vite, 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 faites que tout ça arrive! Manque de peau. 8 ans plus tard, après le début de mon activité, force est de constater que l'indépendance financière est encore loin devant moi et que la pression d'un gouvernement qui essore plus facilement les pauvres que les ultra-riches de plus en plus présente et pesante. Évanoui et incompris, le temps que demande la réflexion d'une œuvre, l'inspiration de l'artiste. Il faut réussir maintenant, tout de suite. Sus les difficultés rencontrées en chemin, les blocages, les déroutes, les projets qui n'aboutissent pas, réussir vite et fort sans prendre en compte le temps que demande la vie. Dans mon activité, le temps se joue de moi, imprime sa marque et son tempo. Chaque œuvre a une temporalité unique, de celle qui jaillit en 1 heure à peine, croquis et mise en couleur à l'appui, à celle qui s'étend sur des mois, le temps de sonder l'illustration, mon cœur, mon ventre, pour la laisser prendre vie petit à petit, le temps de la maturation. Ainsi, de ma série sur les grands méchants nuisibles, qui selon le gouvernement français ne sont pas des humains, dont il manque encore l'ours car il met du temps à venir, et oui, son hibernation est longue. J'ai un paquet d'œuvres non finalisées qui attendent leur jour. Certaines finiront par voir arriver la touche finale, quant aux autres, eh bien, laissons voir le temps venir. L'art, l'inspiration, comme la nature, s'en fiche des aiguilles et des aléas temporels d'une société. Le temps s'écoule rapide comme un torrent en crue ou indolent comme une rivière en plein mois de juillet. Et dans la nature également, le temps est multiple. Celui des saisons et celui de la croissance, par exemple. Que dire du papillon qui reste chenille plusieurs semaines pour ensuite ne durer que quelques jours sous sa forme adulte pour les espèces aux vies les plus courtes ? En passant par la longévité des méduses, l'animal capable de vieillir le plus longtemps, voire de frôler l'immortalité pour la méduse Turritopsis nutricula, grâce à un renouvellement de ses cellules, mais surtout à une capacité à revenir à un état antérieur à sa maturité sexuelle, cette méduse étant donc capable de rajeunir. Et que dire des colonies de fourmis qui semblent toujours en mouvement, toujours à travailler pour le bien de la colonie, quand, de l'autre côté, il y a le paresseux dont la lenteur lui permet de se fondre dans la canopée et d'échapper ainsi à ses prédateurs. Les arbres, eux, nous échappent complètement dans leur rapport au temps. Le plus vieil arbre serait un épicéa de 9552 ans en Suède. Et lorsque l'on entend dire « vieux chêne de 200 ans », en réalité, le chêne est encore très jeune. En général, les chênes peuvent vivre jusqu'à 900 ans. Cela reviendrait à dire que les jeunes humains de 20 ans sont suffisamment vieux et qu'on pourrait les tuer sans problème pour les utiliser. Bon, les utiliser à quoi ? Ça, ce n'est même pas la peine d'y penser. L'humain semble avoir du mal à appréhender un autre temps que le sien, à appréhender les espaces-temps dilatés des espèces animales, végétales, minérales. La productivité et le toujours plus sont mis en avant dans un monde qui perd les pédales, sans se soucier du temps de la terre, de la vie, des astres. Ralentir pour mieux prendre son temps, faire moins de tâches mais plus approfondies, prendre le temps de sentir son corps, ses émotions, prendre le temps de comprendre son environnement, prendre le temps de faire son potager, regarder les légumes pousser, préparer à manger sans acheter de surgelé, qui plus est néfaste pour la santé, prendre le temps de faire la causette avec ses voisins, rendre visite à ses grands-parents, aider un tel avec ses enfants, prendre le temps de lever le nez en l'air et regarder le balai des oiseaux dans le ciel, prendre le temps pour rêver et, pourquoi pas, mettre enfin une touche finale à cette illustration qui nous nargue depuis des mois sur notre coin de chevalet.
Merci Marine. Prendre le temps de lever le nez en l'air et regarder le balai des oiseaux dans le ciel, prendre le temps pour rêver, eh bien, si seulement les hommes s'en faisaient une ligne de conduite, notre temps serait un nouvel âge d'or. Voilà Marine, on te retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique dans Rendez-vous compte. Ainsi se termine notre premier rendez-vous compte spécial chronique de cette nouvelle saison consacrée ce mois-ci au temps, à retrouver bien sûr en podcast sur le site d'IDFM avec toutes les références de nos chroniqueurs. Merci Michel, Gérard, Thierry, Hélène et Marine. On vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Et quant à moi Didier, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte sur IDFM évidemment, où je recevrai Louise, une étudiante qui a consacré son mémoire de master à l'aide sociale à l'enfance et aux difficultés qu'affrontent les jeunes placés en famille d'accueil ou en foyer. Mais en attendant, je vous retrouve également dimanche matin, oui, dans la matinale de midi pour ma nouvelle chronique Nec plus ultra. Une nouvelle chronique consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.